Bonjour et bienvenue sur Radio Tropique et dans cette nouvelle émission de Résonance. Résonance vous invite au cours de cette nouvelle saison à partir à la découverte de ces territoires, de ces acteurs qui au quotidien travaillent, inventent, initient des projets artistiques à partir de cette question: comment la création sous toutes ses formes peut être le moteur de la rencontre, du faire ensemble, du vivre ensemble. Aujourd'hui, Résonance part sur les routes de la région. Au cours de cette saison radiophonique, Résonance partira régulièrement sur les routes de la région pour aller à la découverte d'initiatives, de projets culturels et artistiques, afin de mieux en parler et de confier ainsi la parole aux porteurs de ces initiatives. Nous vous proposons de parcourir avec nous les routes de Rhône-Alpes et de poser ensemble, à travers toute une série d'émissions, un regard sur l'accueil des enfants, des adolescents, des amateurs adultes en situation de handicap dans les établissements d'enseignement artistique. Si la tendance actuelle dans ces établissements est à l'intégration, il est à mettre en parallèle aussi avec la démocratisation de l'accès à la culture, et que les choses ont beaucoup évolué en ce sens dans ces établissements, il n'en reste pas moins que le public handicapé ne fréquente pas encore ou que trop rarement ces établissements. Conservatoire et handicap, où en est-on? Quelle situation aujourd'hui? Comment favoriser l'accueil du handicap en milieu ordinaire dans l'école de musique, dans le conservatoire? Comment cela se passe? C'est tout le propos de cette émission. Résonance sur Tropique FM. Aujourd'hui, notre chemin nous conduit en Haute-Savoie et plus particulièrement à Annecy, au sein du Conservatoire de musique, dans lequel nous avons enregistré la présente émission le 17 octobre dernier. Je tiens bien sûr à remercier très chaleureusement son directeur Jean-Paul Audiot, qui a facilité l'organisation de ce moment radiophonique et qui n'a pu participer à cette émission retenue par d'autres obligations. Mais par contre, ses deux enseignants, Camille Dautremer, professeur de violon, et Franck André, musicien intervenant en milieu scolaire, qui vont nous accompagner tout au long de cette émission. Ils portent cette initiative depuis le début et ils imaginent, proposent, conduisent ce que peut être le ou les parcours musicaux au sein de cet établissement, à l'intention d'élèves ou d'adultes en situation de handicap. Bonjour Camille.
Bonjour.
Bonjour Franck.
Bonjour.
Merci en tout cas d'être nos guides ici dans cet établissement et puis pour toute cette émission. Alors peut-être on pourrait commencer ainsi, c'est toute une aventure qui a déjà maintenant 8 années d'âge ou qui entame sa 8e année d'âge. Comment les choses en sont venues à se mettre en place ici dans cet établissement?
Alors les choses ont débuté il y a quelques années. En 2001, Jean-Paul Audiot avait inscrit au projet d'établissement le souhait de créer des ateliers musique et handicap au sein du conservatoire. Et puis donc c'est resté inscrit au projet d'établissement en quelques années. Et puis Camille et moi-même sommes arrivés au conservatoire et nous sommes portés volontaires pour mener cette action ensemble au sein de l'établissement.
Oui, donc ça c'était vraiment quelque chose de nouveau. En préparant l'émission tout à l'heure, on disait aussi, Camille, que c'était finalement une histoire de rencontre aussi.
Voilà, c'est une histoire de rencontre. Il se trouve que moi-même j'avais plusieurs activités dans le domaine du handicap déjà, donc ça rejoignait des préoccupations que j'avais déjà depuis longtemps. Et avec Franck, on avait tous les deux envie d'élargir un peu notre public au niveau musical, au niveau de l'enseignement. Donc effectivement, on a eu cette opportunité, c'est la rencontre avec Jean-Paul Audiot cette préoccupation qui existait déjà au sein du conservatoire.
Puis on sait que du coup, tous les établissements publics, alors ça on retrouve avec la loi de février de 2005, hein, qui inscrit dans le droit commun l'accession des personnes en situation de handicap à l'enseignement artistique, hein, pratiqué dans les conservatoires. Donc là aussi, si on revient 8 ans en arrière, 2005, on est un peu dans les mêmes timings. Donc c'est que conjugaison aussi en même temps de point de vue, d'envie, et en même temps une évolution sur un aspect législatif, incitateur aussi également, même si on sait qu'à partir de là, même si la loi peut être incitatrice, tout n'est pas forcément si simple que cela sur le terrain. Mais en tout cas, ce qui est important, c'est que voilà, des énergies et des envies soient là et que du coup, quelque chose commence à se mettre en place. Alors, peut-être comment sont venus peut-être les premiers enfants ? Est-ce que déjà il y avait vous avez communiqué à l'extérieur ou est-ce que c'était peut-être du bouche à oreille ? Comment peut-être ces premières venues au sein de l'établissement se sont-elles faites ?
Donc on a dans ce début de mise en place des ateliers, on a reçu l'aide notamment de l'ODAC, donc
l'Office départemental de la culture, alors là qui dépend du Conseil général.
Voilà, exactement, qui nous a un petit peu aidé dans la diffusion de l'information. On a envoyé des courriers à tous les établissements spécialisés, les écoles qui accueillaient des enfants et des jeunes en situation de handicap, pour leur faire savoir donc que l'on crée ces ateliers. Mmh. On a organisé une réunion d'accueil où on a invité des parents, des associations, donc où il y avait, je me souviens, une trentaine de personnes présentes à l'époque, parents qui posaient beaucoup de questions.
Certainement.
Quant à la responsabilité, quant au contenu, quant à l'encadrement qu'allaient avoir leurs enfants. Voilà, donc cette réunion. Ensuite, on a fait part aussi du projet à tous nos collègues enseignants du conservatoire. On a reçu aussi un certain nombre de
oui, parce que ça fait partie du projet d'établissement.
Voilà.
Hein, ça aussi, c'est important. C'était un fait nouveau aussi. On le retrouve aussi dans la charte des enseignements spécialisés. Et ça, c'est quand même aussi une chose importante. Effectivement, par le fait aussi de la loi 2005 que j'évoquais là tout à l'heure, mais effectivement, tout établissement, et notamment le conservatoire, école de musique, école associative, enfin en tout cas toutes celles qui bénéficient aussi de deniers publics, ont dans l'obligation finalement de faire apparaître dans le projet d'établissement, en tout cas les directions, les projets, leur manière aussi de pouvoir accueillir ce public.
Voilà, tout à fait.
Alors, peut-être... c'est une question aussi qu'on rencontre au fur et à mesure quand on se déplace un peu dans chacun de ces établissements. Finalement, il y a une organisation, il y a une manière de donc comment les cours sont faits. Je découvre. Après, je peux avoir un accès à un instrument. Après, je peux rentrer dans une pratique collective. Finalement, quelquefois aussi avec l'enfant ou la personne adulte en situation de handicap, on va se trouver à, entre guillemets, la personne un petit peu hors norme, c'est-à-dire qui va pas forcément suivent complètement l'organisation en tant que telle. Et du coup, comment les choses se sont présentées aussi ici ?
Dès le départ, dans la création des ateliers, on avait une ligne, Camille et moi, sur ce que nous voulions, nous ne voulions pas. Et en fait, dans les ateliers, c'est une adaptation permanente un petit peu au schéma qu'on peut avoir, qu'on peut avoir dans les conservatoires. Donc, ce sont des ateliers de pratique ouverte. Bien sûr, quand un enfant ou un adulte souhaite faire un apprentissage instrumental, par exemple, nous essayons au mieux de porter le projet avec le professeur référent instrumental aussi, bien sûr, et puis par rapport au handicap de l'enfant aussi, à ses capacités. Donc voilà, donc nous sommes vraiment dans des interrogations permanentes, en fait.
Alors peut-être pour rebondir dans le fait d'un commencement, que justement des parents, Camille, vous nous disiez, sont venus assister à cette première réunion. Nous avons le plaisir aussi d'avoir dans ce studio, hein, du conservatoire, plusieurs parents qui sont là, et notamment plusieurs mamans. Et peut-être on pourrait solliciter l'une d'entre elles pour voir un petit peu, elles aussi, de leur point de vue. Je ne sais pas si vous aviez, Madame Godin, par exemple, assisté à cette réunion de présentation qui avait été faite au conservatoire. Alors, je crois que vous vous y étiez, Madame Aligier, hein, c'est ça. Voilà. Et voilà, vous étiez venue. Comment vous aviez eu l'information?
Alors, moi, j'avais eu l'information par l'établissement. On avait eu un papier disant qu'il y avait une réunion d'information sur quelque chose qui allait se passer au conservatoire. Donc, je suis venue parce que ça m'intéressait pour ma fille. Et puis, c'est là qu'on a rencontré Franck et Camille qui ont expliqué le projet. On y a adhéré tout de suite. On a été conquis tout de suite par leur présentation et ce qu'ils avaient envie de faire. Et du coup, moi, ma fille est inscrite depuis la première année là et elle y est toujours.
Donc, ça veut dire qu'elle, là, elle fait partie des plus anciennes. Elle a 8 ans de présence dans l'établissement.
Elle a 8 ans de présence, dans le groupe avec Camille et Franck, oui.
Et là, peut-être aussi, comment sentez-vous cette présence aussi de l'établissement ici? Pour vous, quelquefois, on peut se dire le conservatoire, c'est une certaine, on peut en avoir une certaine vision, on peut en avoir une certaine quelquefois crainte, de se dire c'est peut-être pas forcément pour nous.
Pour si, vous, ça voilà, vous a pas. On s'est senti à l'aise tout
voilà.
de suite.
Le regard des autres
très
parents aussi.
Ça correspondait bien à ce qu'il fallait pour les enfants. Bon, il y a quand même des handicaps différents dans les groupes et on voit que c'est bien pris en charge et bien géré. Et ça n'a vraiment jamais posé de problème.
Elle est heureuse d'être en musique alors.
Elle adore ça.
Elle adore ça. Et elle exprime des désirs instrumentaux par exemple, ou je ne sais pas, elle vous en parle, comment elle évoque ça aussi avec vous.
Elle aimerait faire des percussions d'ailleurs, ils en font beaucoup ici. Et elle aurait aimé faire partie d'un autre groupe de percussions, mais bon, pour des raisons d'emploi du temps, ça n'a pas été possible.
Pour le moment, ça
n'a
pas encore
été
possible.
Mais. C'est une passionnée, oui.
Madame Godin, pour vous, alors?
Alors, moi, j'ai été au courant de ces rencontres pour les enfants qui portent des handicaps par la communication au conservatoire, puisque Inès a des frères. Donc, Inès a 17 ans. Elle est là aussi depuis le départ du projet. Et elle a des frères qui sont dans les cursus du conservatoire.
Ouais.
Et c'est vrai que pour Inès, c'était le bonheur de venir ici aussi avec des professeurs, avec des élèves, d'autres jeunes qui sont maintenant devenus ses amis.
Ses amis.
Il faut arriver en avance pour pouvoir retrouver les amis.
C'est important.
Et voilà, très important. Et c'est vrai que... Elle est très motivée par le contenu des séances, mais aussi les projets d'intégration qu'il y a avec d'autres groupes, comme les chorales ou des petits orchestres qui sont des orchestres mis en place par la formation musicale.
Ouais.
Et c'est chaque projet est motivant, différent et relance... l'ambiance. Moi, je dis que c'est vrai que je reconnais avec mon regard de parent cette unité qu'il y a dans les groupes alors qu'ils sont chacun différents.
C'est ça.
Et je sais que c'est un point qui est très difficile d'obtenir, l'unité d'un groupe avec des jeunes qui portent des handicaps. Et c'est remarquable. Ils arrivent à laisser s'exprimer chacun et à laisser sa place à chacun.
C'est là on voit aussi que peut-être la singularité, le côté pluriel aussi de chacun, voire effectivement l'hétérogénéité, finalement. Alors après, c'est tout la musique étant quelque chose d'un moment collectif aussi, de comment les gens vont se rencontrer, comment ils vont faire ensemble. Et là aussi, c'est toute l'importance de l'accompagnement de Franck et de Camille. Mais du coup, c'est toute une richesse, toute une force aussi qui est là.
Bien sûr, c'est Franck et Camille qui coordonnent tout ça pour que ça soit réussi, bien sûr.
Oui, mais en tout cas, c'est une belle aventure. Et là aussi, quelquefois, elle évoque, j'imagine, d'autres pratiques instrumentales ou des désirs de ce côté-là ou...
Oui, mais je crois qu'elle mesure la difficulté pour elle de pouvoir
de
en faire.
Lancer.
Par contre, elle aime le faire en improvisation.
Elle aime l'improvisation.
Oui, voilà. Et surtout, elle a une reconnaissance des instruments qui m'impressionne.
C'est vrai.
Qui nous impressionne tous parce que elle arrive à reconnaître.
Et à la maison, elle joue avec ses frères et sœurs musiciens.
Oui, elle joue facilement.
Facilement.
Elle chante et tout. Je pense que c'est grâce à tout ce groupe qui permet de la libérer justement, même si elle a toutes ces difficultés d'expression et de justesse et de rythme surtout.
Oui, oui, mais en même temps, c'est toute cette diversité là aussi qui fait qu'on pourra en parler un peu plus avec Camille et Franck tout à l'heure, mais que du coup, chacun ayant ses rythmicités, c'est comment justement par des potentialités de chacun. Et le témoignage que vous nous apportez montre qu'effectivement, voilà, on accorde une pleine place justement à ses potentialités, puis que du coup, elle trouve sa place finalement de manière vraiment forte et très participative. Donc ça, effectivement, c'est, je crois que ça, c'est quelque chose d'important, Camille, en tout cas, dans ce témoignage.
Oui, oui, tout à fait. Ouais, Inès a totalement trouvé sa place dans le groupe. Elle apporte un enthousiasme et comme tous les enfants, ils apportent leur personnalité, leur singularité. Et c'est vrai que la différence des handicaps n'est pas une barrière. On s'est posé la question au départ à la mise en place des ateliers, comment est-ce qu'on allait les regrouper, les enfants. Ça nous est arrivé un petit peu de prendre un ou deux enfants séparément au début pour un petit peu les mettre en confiance et tout ça. Mais ensuite, on les a regroupés un petit peu par âge, par autonomie, et il s'est trouvé que ça s'est vraiment bien passé et que le groupe a trouvé vraiment son unité.
Alors on a encore une troisième maman parmi nous, Madame Fay.
Bonjour.
Bonjour, merci d'être là et bienvenue dans cette émission. Et comme on l'évoquait tout à l'heure avec Madame Godin et Madame Aligier, comment pour vous cette entrée en musique avec votre enfant ici dans ce lieu s'est-elle passée et quel regard portez-vous aujourd'hui sur ce moment de pratique ici?
Alors moi, je suis la maman d'un petit garçon qui est porteur d'autisme. Oui. Il a commencé sa quatrième année dans le cours de Camille et Franck. Moi, j'ai connu le cours par mon orthophoniste.
Oui, c'est intéressant aussi. Qui avait eu l'information.
Par le bouche à oreille. Et donc, je suis venue rencontrer Camille et Franck, qui m'ont exposé le projet. Ça m'a beaucoup plu. Je me suis rendu compte qu'il y avait que tout allait être mis en place. Pour
une écoute, en tout cas, de vos attentes.
Et puis, que c'était particulièrement bien adapté. Donc, on a fait l'essai avec mon fils. Oui. On est là depuis 4 ans.
Oui. Ah oui, là aussi, on s'est inscrit dans une durée. Là.
Voilà, absolument. Et je suis épatée par le travail fait par Camille et Franck avec nos enfants du groupe.
Est-ce que ça veut dire aussi que vos enfants, j'imagine, sont accueillis dans d'autres lieux est-ce que dans ces lieux-là, au quotidien, ils ont aussi d'autres espaces de musique que celui-ci?
Alors, il est accueilli à l'école, en CLIS, et ils ont, de l'écoute musicale.
De l'écoute musicale.
Voilà.
Du coup, voilà, peut-être qu'il apporte aussi, lui aussi, ses savoir-faire, finalement, ces moments qu'il acquiert ici, peut-être dans ces moments au niveau de la CLIS, ou peut-être qu'il participe à certains projets musicaux qu'il mélange ou l'associe à d'autres classes. Mais peut-être, en tout cas, peut-être.
Peut-être.
En tout cas, on peut voir par le témoignage, alors un, que aussi la durée, c'est-à-dire que du coup, la présence de ces enfants dans la durée dans l'établissement, c'est-à-dire que et je pense que c'était important, elles viennent de le souligner toutes les trois, finalement la force du projet que vous proposez aussi ici, la manière dont vous êtes à l'écoute aussi de ces jeunes, des parents, et qu'il y a on sent qu'il y a une dynamique, parce qu'effectivement ils ne seraient peut-être pas forcément restés 8 années ou 4 ans déjà dans cet établissement s'il n'y avait pas toute cette attention et toute cette écoute autour du projet.
Voilà, je pense qu'il y a une notion qui est importante, c'est la notion de confiance, à la fois, avant tout, la notion de confiance envers des enfants, envers nous, entre eux, et puis après la confiance des parents, la confiance que les parents nous accordent, bien sûr, mais voilà, ça se tisse, bien sûr, dans la durée.
Alors peut-être on peut aller, peut-être avec Franck, un peu plus à l'intérieur de ce moment de musique, de cet espace commun. Comment ça se passe? Qu'est-ce qui s'y déroule? Sous quelle forme la musique se fait-elle? Comment vous abordez les choses?
Donc, nous accueillons les enfants donc, chaque semaine sous forme d'un atelier de 45 minutes.
45 minutes.
45
d'accord.
minutes. Et donc, dans cet atelier.
Déjà, peut-être aussi, pour faire des rebonds avec d'autres situations, quelquefois, des fois, l'atelier est assez marginalisé dans l'établissement là. Là, il se situe dans l'organisation, je dirais, du bâti oui. au cœur, à un autre endroit, à l'extérieur.
Oui, c'était vraiment un souhait de Camille et moi dès le départ d'ancrer ces ateliers au sein du conservatoire, donc dans un lieu central. On est au premier étage de ce bâtiment, et donc on a en quelque sorte une forme de visibilité assez importante. Voilà. Après, c'est lié aussi à la salle qui est assez grande, adaptée, bien sûr. Mais
bien sûr.
Vraiment, nous souhaitions que ces ateliers se déroulent vraiment au cœur du conservatoire. Voilà. Donc, c'est vrai que nous accueillons donc chaque semaine 45 minutes. Et voilà, donc une large part dans ces 45 minutes, bien sûr, de musique liée à l'improvisation. Mmh. Et puis aussi l'importance de rituels pour le groupe des petits, surtout. Mais bon.
Quel type de rituel, par exemple?
Un accueil en musique, une chanson, voilà, libre expression aussi. Mmh. Et puis voilà. Et aussi, voilà, l'importance d'avoir quand même un espace de liberté dans ces séances, mais avec toujours quand même des choses structurées pour que chaque enfant ait ses repères aussi. Voilà.
Je vois du zèle bleu.
Là, c'était le cœur.
Je vois un cœur. Je vois.
Ouais, un tronc.
Je vois le tronc qui tombe. Et qui tombe avec le vent. Et je vois du soleil jaune. Et je vois
plus foncé.
De l'herbe. Jaune et vert. Et orange. Je vois un arbre. Une bouche avec une moustache. Je vois un cœur.
Pas d'orangé au soleil.
Qui berce le cœur avec un couteau. Et ce couteau est arraché par les veines. Va les rejoindre et va
nuage.
Guérir le cœur et va le reposer.
C'est un ciel d'arc-en-ciel qui vole, qui vole.
Ciel, arc-en-ciel, la. Le ciel rouge, bleu, 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 b
voilà, Camille et Franck, un moment voilà, de musique de cet atelier. Peut-être, comme là on entend aussi la présence d'un saxophoniste, peut-être nous dire un peu comment ce moment où la voix chantée, le texte, comment s'est construit ce moment ?
Alors en fait, c'était un projet qu'on avait fait en 2010, je crois, avec la classe de saxophone du conservatoire.
Donc du coup, ça c'est important aussi, ça veut dire qu'il y a des liens aussi entre l'atelier et les classes.
Voilà, on essaye vraiment, chaque année de faire des projets transversaux en fait, pour que les élèves se rencontrent au sein de l'établissement, se mélangent, puissent se rencontrer, qu'il y ait des rencontres. Donc on a déjà fait des projets avec des orchestres à cordes, la classe de théâtre, la chorale, voilà, la classe de saxophone entre autres. Et donc ce projet avait été réalisé avec cinq ou six grands étudiants de cette classe et l'atelier des adultes, donc l'atelier Mosaïque. Il s'agissait de créer des binômes, donc un saxophoniste et un jeune en situation de handicap, pour au départ créer des tableaux en collage, en dessin, en peinture, en utilisant toutes sortes de matériaux. Tableaux qu'on a ensuite exposés à l'auditorium, éclairés, les élèves ont évolué autour de ces tableaux en improvisant vocalement, instrumentalement, avec... plein de possibilités. Voilà, donc l'extrait qu'on vient d'entendre, c'était un petit moment de la répétition de ce petit spectacle. Musique et beaux-arts, on avait appelé ça.
En tout cas, je trouve que c'est important, ce croisement justement avec à l'intérieur de l'établissement. J'évoque ça parce que je voudrais juste citer Philippe Tailleux qui lui travaille là aussi dans un établissement similaire au conservatoire à rayonnement régional de Rouen, et qui lui évoquait un petit peu la difficulté de fixer finalement une ligne de conduite pour ses parcours hors normes. Quels critères pour entrer, quelle durée de parcours, quels repères pour évaluer la progression ou le bénéfice personnel, comment décider de sortir ou de s'arrêter. Voilà, il exprimait un petit peu alors, d'autres types de difficultés, mais en tout cas, c'en était une aussi qui était importante à ses yeux. Et quand on vous entend, on sent en évoquant un petit peu ce lien avec une classe de saxophone, ce lien avec la classe d'orchestre, etc., que là, dans la réflexion que vous portez tous les deux, dans la manière aussi de porter le projet, il y a quand même, vous l'avez signalé là tout à l'heure, la transversalité. Et comment ça se travaille ? Enfin, en tout cas, il se pose ces questionnements-là. Vous vous y retrouvez aussi dans ces questionnements de Philippe Tailleux. C'est une manière pour vous, dans ce que vous commenciez de nous dépeindre, d'essayer d'aborder ces questions autour de ces parcours entre guillemets hors normes ?
Oui, c'est un questionnement que l'on a au quotidien et chaque année, en fait, à chaque nouvelle rentrée. C'est vrai, c'est une nécessité pour nous de travailler en partenariat avec d'autres classes, d'autres collègues, pour comme vient de dire Camille, que la rencontre puisse se faire. Et voilà, donc c'est vraiment un axe majeur de notre travail, puisque entre autres, ça va aussi nous permettre de créer des dynamiques dans notre pratique, Camille et moi, pour se renouveler aussi, et puis aller à la rencontre des autres. C'est aussi un des objectifs des ateliers. Donc voilà, ça peut se faire, comme on l'a dit Camille, à travers divers projets. Et donc on mène régulièrement des actions, entre guillemets, si je peux parler comme ça, d'aller à la rencontre de nos collègues en réunion ou ça, où on essaye d'imaginer.
Et est-ce que ça veut dire que petit à petit, au travers de ces projets de collaboration, d'autres professeurs se joindraient bientôt à vos côtés pour aussi aller plus loin dans cet accueil et être aussi acteurs à leur niveau à eux aussi, d'action musicale vis-à-vis de tous ces jeunes qui sont présents aussi ici ?
Oui, alors c'est vrai que voilà, l'échange avec les autres professeurs, pour l'instant, depuis la mise en place des ateliers, il se trouve que c'est un petit peu nous qui allons vers les collègues pour leur faire la demande, est-ce qu'ils ont envie de travailler avec nous. On a été à différentes, on a fait plusieurs rentrées pendant lesquelles on a été à des réunions de département pour faire savoir qu'on existait, pour leur demander s'ils ne voulaient pas... faire des projets avec nous.
voilà, et ça se fait de manière assez facile.
Oui, alors c'est vrai qu'à chaque rentrée, on a un petit peu
Le stress,
peut-être pas, mais de se demander avec qui on va, travailler pour pas redemander toujours aux mêmes collègues, pour un petit peu renouveler la qualité des projets. Donc c'est vrai que c'est une préoccupation pour nous, une des difficultés, on peut dire.
Et quelquefois c'est l'inverse. Est-ce que par hasard il y aurait un professeur qui vienne vers vous et dit donc Camille, Franck, voilà, moi j'ai cette idée, je veux la faire avec vous?
Ça c'est pas encore trouvé, mais ça peut venir.
Ouais, ça va venir. En tout cas, peut-être je voudrais laisser la... Je sais qu'il y a justement deux collègues, à Franck et à Camille, qui nous ont fait vraiment la gentillesse et le plaisir d'être là et de participer aussi à cette émission. Myrène Adovani. Et je crois que voilà, vous vous occupez de la chorale et qu'il y a des enfants qui participent aussi à ce moment avec vous.
Oui, alors moi je m'occupe des 5 chorales d'enfants et d'adolescents du conservatoire, donc de 7 à 18 ans.
Oui.
Et donc on a eu 2 projets avec les classes. Le premier il y a 5-6 ans peut-être avec le groupe des plus grands, sur le thème de la gourmandise, je crois. Suite à ça, j'ai accueilli dans mes cours de cœur d'ado une jeune femme de ce groupe qui est restée 1 ou 2 ans, je pense, dans le cœur, qui a toujours été très bien accueillie. Il a fallu apprendre pour moi aussi une attitude spécifique quand il y a des informations à donner. J'ai pas toujours anticipé le fait qu'elle pouvait ne pas relayer l'information aussi bien que d'autres. Voilà, donc il y a eu des petits ratés de ma part comme ça, mais je pense qu'elle était contente, et en même temps elle aurait voulu peut-être un rapport plus privilégié, plus maternel de temps en temps. C'était enrichissant, je pense, pour elle et pour moi d'apprendre à trouver la bonne place.
À trouver la bonne place, voilà. Et l'endroit où ça peut se rencontrer.
Voilà. Et le deuxième projet choral, il est plus récent, c'était il y a 2 ans, je pense en 2012. On avait fait l'Opéra de la Lune, donc de Jacques Prévert, qui a été mis en musique, avec le groupe des petits cette fois. Et j'ai pas pu discuter beaucoup avec des parents après, mais c'était intéressant de voir ce que mon groupe de petits, donc c'était les 7-9 ans qui chantaient avec eux, ont pu apprendre de ce groupe-là. Les enfants en situation de handicap étaient disposés en demi-cercle, ils étaient assis parce qu'ils étaient 1 heure sur scène, avec un djembé aussi pour faire une introduction improvisée. Donc mon groupe était vraiment impressionné de voir que, que ça sonnait très bien, qu'il y avait une ronde comme ça dans l'imitation de Franck à chacun des enfants, répéter un geste musical sur l'instrument à percussion, après une petite phase d'improvisation chacun. On avait une introduction haute en couleurs. Après le conte, ils avaient bien sûr pas pu apprendre la totalité du conte parce que ça fait une masse de texte énorme, mais certaines chansons avaient été apprises par le groupe, et là aussi les enfants du chœur à mi-voix, donc l'autre groupe, ont découvert que certains enfants connaissaient très bien les paroles, certains enfants chantaient très bien, d'autres, une jeune fille était toute timide, avait du mal à sortir un son, et donc ils essayaient d'apporter un peu d'énergie. Dans l'autre sens, il y en avait une jeune fille qui débordait d'enthousiasme, qui était complètement dans l'exaltation et dans le débordement d'énergie, et ça les a beaucoup impressionnés aussi.
Ouais.
Eux qui sont parfois un peu debout, un peu inertes. Donc pour eux, c'était relativement naturel cette rencontre, parce qu'ils me disaient qu'à l'école, ils côtoyaient des enfants en situation de handicap dans chaque classe.
Il n'y avait pas d'appréhension.
Non, pas d'appréhension particulière. S'habituer aussi à ce que tout rentre pas forcément dans les clous habituels, qu'il puisse y avoir des interventions spontanées. Mais c'était une belle expérience.
Dynamique, une belle expérience, oui. Et du coup, après, les enfants de la chorale, comment réagissent-ils? C'est-à-dire, après, ils vous redemandent, tiens, est-ce qu'on ne va pas les recroiser à un moment donné?
Ils m'ont demandé, au spectacle suivant, est-ce qu'on sera encore avec ce groupe? J'ai dit non, pas à chaque fois. Mais on refera bien sûr d'autres échanges.
Oui, voilà donc déjà un exemple de croisement. Vous avez aussi à vos côtés Sophie François, et je crois que vous êtes prof de formation musicale et aussi de musique traditionnelle.
Oui, exactement. Donc, on avait tenté l'expérience de mêler l'atelier de musique traditionnelle avec leur atelier. Mmh. Et on a été confrontés le problème de la musique traditionnelle, c'est on fait de la musique à danser, donc c'est
bien
de la
sûr.
Musique répétitive.
Le mouvement,
musique répétitive avec des carrures. Mmh. Et je crois que on n'a pas pu aboutir le projet parce que le contexte musical n'était peut-être pas tout à fait approprié à l'atelier. Moi, c'est quelque chose que j'ai toujours en tête de faire quelque chose avec eux, en tout cas. Donc,
ouais, de trouver comment en faire.
Voilà,
justement.
Peut-être qu'il faut réfléchir le projet pour lui donner peut-être une autre dimension. Pourquoi pas partir de la musique traditionnelle, mais pourquoi pas partir tout simplement de l'aspect rythmique et développer quelque chose par rapport à ça.
Oui, du coup, c'est ça aussi qui est intéressant, c'est que on sait bien, quelle que soit après la présence de l'adulte ou de l'enfant en situation de handicap, mais du coup, ça va bouleverser aussi finalement le vivre ensemble, par exemple, mais aussi les postures professionnelles, les contenus. Et donc, du coup, ça oblige à retravailler assez en profondeur, finalement, assez bien le côté pédagogique, mais le pourquoi de la musique, comment faire ensemble, comment, on parlait d'hétérogénéité tout à l'heure, du coup, des attitudes, et vous le soulevez, quelqu'un qui peut rentrer dans une carrure, mais quelqu'un qui ne rentre pas encore dans une carrure, mais comment sa rythmicité, sa temporalité peut rentrer aussi en connivence finalement et, avec celle des autres. Enfin voilà, il y a aussi, je crois aussi ça qui est, enfin, je ne sais pas comment vous le percevez, parce que je sais qu'aussi vous êtes sur le plan de la formation musicale, donc là, le rapport à l'écriture, le rapport plus formel entre guillemets des choses, voilà, ça nous oblige à revisiter aussi un peu ces questions, ou en tout cas à essayer de voir comment les aborder autrement.
Prendre une distance, je pense, sur les objectifs, repartir sur peut-être simplement, enfin, donner une dimension sur les sensations et l'énergie, le geste musical qui fait que ça a découlé sur de la théorie, des choses comme ça, mais voilà, partir sur l'essentiel au final.
Résonnant sur Tropic FM, nous venons d'entendre un extrait donc, de Objet 4 de Jean-Pascal Chaigne. Très heureux aussi de vous accueillir dans le cadre de cette émission, Jean-Pascal. Ça nous permet, par cette présence, bien sûr, de découvrir aussi qu'on vient d'entendre parler de musique traditionnelle, la place de toutes les musiques aussi dans un établissement comme celui-ci. Il n'y a pas toujours aussi des compositeurs dans chacun des conservatoires. Il y a Boris Cloutot, dont on essaiera d'entendre aussi une œuvre là tout à l'heure. Donc déjà l'importance de la création dans la place ici. Peut-être quelques mots sur la pièce qu'on vient d'entendre aussi également.
Oui, merci Alain Goudin. Alors cette pièce, justement, Objet 4, a été jouée dans le cadre de la deuxième édition du festival Son d'automne,
un festival un moment important ici.
Voilà, un grand moment de musique contemporaine et plus largement de création musicale au conservatoire. Et effectivement, c'est à l'image de ce festival que le conservatoire développe une politique de création très importante et très, très rare finalement.
Très rare aussi.
À ce point. Mmh. On a effectivement, vous parliez de Jean Favori qui a une classe de composition électroacoustique, Boris Clotot qui a une classe de composition à l'image. Mmh. Il y a vraiment un axe autour de la création musicale très important. Il y a aussi beaucoup de relations entre les différents professeurs, beaucoup de relations également avec les professeurs d'instruments, car sans eux, rien ne serait évidemment. Et il faut dire qu'ici, au Conservatoire d'Annecy, les professeurs d'instruments sont très intéressés par la création, la pratiquent eux-mêmes beaucoup. Et voilà, alors, toute cette vivacité se cristallise notamment dans ce festival Son d'automne. On va avoir la troisième édition cette année de ce festival et on s'en réjouit tous avec plein de choses, des masterclass, des rencontres avec les interprètes, avec le public, des concerts et des présentations à destination des jeunes publics. Voilà, on essaye absolument d'élargir le plus possible le champ du public auquel s'adresse ce festival. Alors, quel peut être l'intérêt justement d'une telle création, d'une telle politique autour de la création dans un conservatoire pour le public donc handicapé? Eh bien, c'est notamment d'avoir la possibilité de créer des projets de toutes pièces destinés à ce public en situation de handicap. Parce que, évidemment, le répertoire classique de la musique n'offre pas de telles choses.
Donc, on l'entendait tout à l'heure, comment trouver l'adéquation avec la carrure de la musique traditionnelle qui a toute sa forme. Mais peut-être que par le biais, effectivement, du travail de création, de composition, on peut justement mettre en adéquation un certain nombre de paramètres et faire que chacun, finalement, se trouve acteur pleinement.
Oui, tout à fait. Et il faut faire comprendre, par exemple, aux élèves compositeurs que ce public en situation de handicap possède un potentiel tout à fait
très juste,
incroyable. Et il faut finalement faire un parallèle très simple. Alors, on n'écrit pas pour violon comme on écrirait pour trombone. Il s'agit juste d'adapter son écriture à un instrument ou à un public et de tirer le potentiel de cet instrument, de ce public, etc.
Voilà. Là, je trouve ça très important, effectivement. Souvent, on entend dire qu'il faut que la personne handicapée s'adapte. Vous venez nous dire le compositeur doit s'adapter. Ça, je trouve ça aussi important parce que c'est effectivement essentiel dans la démarche. Bon, déjà, du compositeur en tant que tel, parce qu'il va écrire pour des gens, des musiciens. Donc, il faut qu'il les connaisse, il faut qu'il appréhende comment il peut travailler avec eux. Donc, dans l'habitude, je dirais, à avoir cette prégnance justement de l'autre, mais effectivement encore de et je trouve ça effectivement important pour ces compositeurs en devenir d'être incités justement à avoir encore un petit peu plus aiguisé cette écoute-là pour pouvoir justement se dire il y a un potentiel, comment ça me permet de nourrir mon univers créatif aussi à partir de là, mais tout en tenant compte que là en face de moi j'ai aussi des potentialités.
Oui, et s'adapter pour un compositeur, ça n'est pas faire un compromis forcément.
C'est ça.
Il y a certainement une part de compromis, mais comme toujours quand on écrit de la musique, c'est aussi recevoir toute la stimulation de la création de ce public formidable.
Thank you.
Voilà, c'était Hymne 1, toujours de Jean-Pascal Chaigne, avec lequel on avait un échange important, parce qu'effectivement, voir que la création et la place de compositeur et leur manière d'envisager la chose est très prometteur, aussi, effectivement, en tout cas, on parlait de transversalité tout à l'heure, et là, on pourra peut-être y revenir sur comment l'improvisation, la création, les musiques improvisées peuvent être aussi des moteurs de la rencontre. Mais je crois que, Madame Godin, vous aviez envie, je vous voyais, vous aviez envie de réagir aux propos de Jean-Pascal Chaigne.
Oui, côté parents, on mesure complètement le travail que vous faites pour adapter chaque projet au groupe, aux enfants, et qu'on est très sensible justement à tout ce travail que vous faites pour s'adapter, puisque nous, c'est chaque jour qu'on s'adapte justement. J'imagine. Et qu'on voit aussi justement les talents de nos enfants. Ben, un jour, j'ai vu le petit frère d'Inès dire à des gens qui ne connaissaient pas Inès, oui, mais Inès, elle a des talents que nous, on n'a pas. Et en fait, vraiment, c'est grâce à ces projets en groupe ou intégrés au sein du conservatoire que nos enfants ont carrément une autre dimension.
C'est ça.
Et c'est vrai que là, si je parle côté parents d'enfants qui portent un handicap, c'est exceptionnel. J'ai aussi, là, pour rebondir sur ce que disait Myrène, des retours de parents qui ont assisté au concert, notamment oui. du conte avec la chorale, qui ont vraiment apprécié ce projet avec nos enfants, puisque justement, après, ça change le regard de leur enfant, que ça soit parce qu'eux ont des difficultés et ils mesurent qu'il y en a qui en ont encore plus, ou parce que justement, ils voient que, eh bien, ils peuvent faire avec eux, ils ont beaucoup moins d'appréhension à aller vers les enfants qui portent des handicaps. Et pour nous, c'est vraiment un élément essentiel pour l'avenir de nos enfants.
Je crois que c'est effectivement, votre témoignage est important, et ces retours des autres parents que vous formulez également sont importants, car on sent que là, et là c'est un essentiel de la musique, le faire ensemble, et du coup de comment il se constitue ce faire ensemble, et quand il est dans cette optique-là, effectivement chacun finalement peut trouver sa place. Et là on voit que les conservatoires, puisque c'est un peu l'objet de cette émission qui prend les chemins un peu de Rhône-Alpes pour avoir un peu une température vivante de qu'est-ce qui se passe aujourd'hui et comment on est, là on voit que le conservatoire avec les autres acteurs bien sûr qui sont d'autres médiateurs et d'autres transmetteurs de la musique a un rôle aussi important, essentiel aussi dans cette possibilité de faire aussi que ces enfants et que tout le monde surtout, parce que là ce qu'on vient d'entendre c'est que tout le monde peut se retrouver au travers de la musique et de la pratique musicale, et que là elle est fédératrice finalement, et qu'elle a donc peut-être un rôle important socialement justement pour nous permettre d'essayer de mieux construire ce commun, ce vivre ensemble qu'on voit tous les jours, qui n'est pas si évident que cela. L'actualité nous le montre beaucoup en ce moment, voilà, où celui qui est différent, celui qui est étranger, celui qui est ci, celui qui est là, voilà, toute cette question est terriblement en jeu aujourd'hui. Donc on voit bien que là les pratiques artistiques et notamment ce qu'on évoque aujourd'hui ont toute leur place justement pour essayer de travailler à se vivre ensemble. Alors peut-être Camille, on pourrait rebondir en entendant Jean-Pascal Chaigne, ces moments de création, que là aussi il y a aussi bien sûr cette présence dans la durée, mais il y a aussi des compositeurs invités en résidence.
Oui, voilà, donc on a la chance au Conservatoire d'Annecy effectivement d'avoir régulièrement des compositeurs en résidence. Cette année, il s'agit de Karl Nagelen, qui est en résidence depuis 2 ans, qui termine sa résidence au mois de juin. Et nous allons avoir la chance de pouvoir faire un projet avec lui, avec deux de nos ateliers, de reprendre une de ses pièces, la boîte à frissons, qu'il a déjà créée par ailleurs avec des jeunes en situation de handicap. Et donc voilà, on l'a rencontré hier et on a mis en place le projet pour la fin de l'année. Il va venir rencontrer plusieurs fois les élèves, faire travailler sa pièce.
Oui, là, donc, là, on a aussi quelque chose d'important, c'est que, alors, connaissant aussi un petit peu le travail de Carl Negelen, je me doute qu'à un moment donné, il y aura modification peut-être de la pièce, voilà, en fonction de comment il va travailler avec vous. Mais ce qui est quand même intéressant, c'est que là, par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, on accède finalement à un répertoire récent, bien sûr, mais là, finalement, quand on pourrait se poser les questions, de se dire, bon, est-ce qu'on va se cantonner, on évoquait la musique improvisée ou un certain type que de travail d'atelier. On sent bien que dans votre démarche, il y a déjà plein de transversalités, mais à un moment donné, grâce peut-être aussi à ce travail dans la durée, on peut aussi, à un moment donné, partager un répertoire commun à d'autres.
Voilà, c'est ça qui est intéressant. Et aussi le fait de faire appel à d'autres élèves du conservatoire pour partager ce répertoire, pour encore une fois qu'il y ait des rencontres qui se fassent. Et donc voilà, ce projet va permettre cela.
Voilà, c'était là aussi une pièce qui démontre toute la vitalité du travail des compositeurs ici au Conservatoire d'Annecy, puisque nous avons entendu désormais pour 12 instrumentistes une pièce écrite et créée en 2003, cet ensemble placé sous la direction de Fabrice Pierre et qui était composé par Boris Cloutot. On a entendu tout à l'heure Jean-Pascal Chaigne. Boris Cloutot est un des autres compositeurs présents dans l'établissement. Alors on évoquait, Camille et Franck, bien sûr, ce travail qui est en train de s'élaborer avec Carl Negelen. Ce qui est intéressant aussi dans la présence et la résidence finalement aussi de ce jeune compositeur, c'est que du coup, bien sûr, il travaille avec les autres classes. Il y a des projets, j'imagine, multiples depuis 2 ans avec lui. Mais en tout cas, qu'à un moment donné, alors peut-être c'est juste de voir comment ce moment, on évoquait rencontre tout à l'heure, c'est vous qui êtes allé vers lui, c'est lui qui est venu vers vous, comment cela s'est passé?
Nous sommes allés vers lui, Camille et moi, puisque donc on connaît le travail de Carl, puisqu'il avait quand même 2 ans qu'il est dans la maison, et c'était vraiment une volonté de travailler avec lui, et puis de partager son univers, et puis surtout de venir sur son terrain, et puis lui de venir sur notre terrain, et puis de faire créer la rencontre. Voilà. Et puis ce qui nous a séduit aussi, c'est que dans ces pièces, justement, la permettre d'adapter aussi l'ensemble, d'avoir cette latitude un petit peu pour varier les choses, qui est très important.
Alors, je vous propose de découvrir aussi la musique de Carl Negelen en écoutant donc In Aquam, voilà, une petite pièce d'une minute 53 que nous découvrons de Carl Negelen, avec au piano préparé Eve Risser et à la clarinette Joris Rühl. Résonance sur Tropic FM, nous venons d'entendre In Aquam de Carl Negelen avec Eve Risser au piano préparé et Joris Rühl à la clarinette. Donc voilà une belle expérience qui va se dérouler. On peut rappeler qu'effectivement cette résidence de Carl Negelen est sur les deux conservatoires Haute-Savoie-Savoie, c'est-à-dire que du coup il est présent également à Chambéry, parce qu'il y a des habitudes aussi entre les deux conservatoires hein, de travailler comme ça. Ce qui me permettrait peut-être juste, Camille et Franck, puisque je sais tout récemment, vous avez participé à un moment aussi où... je viens de parler de Chambéry, mais il y avait Grenoble. Enfin, en tout cas, les établissements de l'Arc Alpin. Vous vous êtes réunis, je crois, à Grenoble. Et du coup, vous avez évoqué aussi pour chacun de ces établissements un petit peu voilà, comment ça se passait, finalement.
Oui, c'est tout frais. Nous sommes réunis cette semaine avec les établissements de Chambéry, Grenoble, Bourgogne-Jallieu et Annecy. Et donc, c'était une rencontre très riche puisque nous avons pu concrètement échanger sur nos pratiques respectives dans chaque établissement, avec bien sûr des fonctionnements différents. Et voilà, donc pour résumer, ce qui est intéressant, c'est que ça lance une nouvelle dynamique de travail en réseau entre chaque...
Ça, c'est un peu nouveau ça, ouais, dans ce domaine-là, je veux dire.
C'est un peu nouveau, oui. Ouais. On a des échanges plus informels, on va dire, ouais, pour des rencontres, sur des concerts, sur d'autres choses, des réunions. Mais là, je pense qu'un travail va être lancé là-dessus, justement, pour échanger, s'inviter, partager, confronter nos pratiques. Et Camille et moi, d'un point de vue personnel, on trouvait ça très important, puisque ça permet aussi, nous, ça fait 8 ans qu'on a une pratique ici, ouais, de se renouveler, d'avoir de nouvelles idées, et puis pourquoi pas de faire des projets aussi interconservatoires. Voilà.
Oui, là, je crois que c'est quelque chose d'important là, que vous soulevez, dans le sens où... une dynamique semble maintenant s'installer justement entre plusieurs établissements de la région pour essayer de faire ensemble, en tout cas partager ensemble les choses. Et ça, c'est effectivement, ça paraît quelque chose d'essentiel pour la pratique en général, bien sûr, de ce qui se fait dans chacun des conservatoires, mais notamment sur ce sujet-là.
Oui, tout à fait.
Nous arrivons, chers auditeurs, au terme de cette émission, enregistrée, je le reprécise à nouveau, le 17 octobre dernier, dans l'auditorium du Conservatoire à rayonnement régional d'Annecy. Je remercie à nouveau Jean-Paul Audiot, le directeur de ce conservatoire, pour son accueil, ainsi que Camille D'Autremer et Franck André pour nous avoir accompagnés tout au long de cette émission. Grand merci à l'équipe technique de Résonance, Simon Deborne à la technique et à la réalisation, Laurent Cusin à la régie générale. Cette émission sera rediffusée jeudi prochain de 16h à 17h, puis mardi de 13h à 14h. Vous pouvez également vous rendre sur le site de Résonance Contemporaine, www.resonancecontemporaine.org, pour écouter votre radio préférée, Radio Tropique, en direct ou en différé, podcastée, et connaître la grille des programmes. Vous pouvez vous rendre sur www.tropiquefm.org. Nous vous remercions de nous avoir accueillis chez vous. Merci pour votre confiance et votre curiosité. À bientôt.